Prions. Merci Seigneur Jésus, du fait que tu es présent au milieu de nous, du fait que tu es ici ce soir, que tu nous as parlé en fin de semaine. Donne-nous encore une fois de réaliser qu'on est à tes pieds et qu'on dépend de toi. Par ton Esprit Saint, parle-nous, transforme-nous. Notre frère Mathieu nous a amené à réfléchir à la question d'être brisé. Et on sait que celui que tu brises beaucoup, tu utilises beaucoup. Seigneur, fais ce que tu as besoin de faire dans nos vies pour nous amener à avoir une vie qui compte pour ton royaume. Parle à nos cœurs ce soir. En ton nom, on demande. Amen. Amen. On a entendu beaucoup de choses en fin de semaine. Et ça doit certainement susciter des réactions différentes pour chacun d'entre vous. Certains d'entre vous, vous êtes prêts à partir, prêts à décoller avec tout ça. The sky is the limit. Peut-être que pour certains autres, vous vous dites « Oh, c'est lourd. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? » Mais inquiétez-vous pas, il y a des ressources pour aller plus loin. Et on a pris un bon temps sur l'heure du dîner avec les responsables de ministère pour voir comment prendre tout ça et le mettre en pratique dans le contexte de votre quotidien, de votre GEE. Et aussi, la feuille jaune dans votre paquet de feuilles, c'est la feuille qui va vous aider à aller voir d'autres endroits où vous pouvez trouver des ressources pour vous aider à aller plus loin. Et moi, je vous dirige surtout vers le site livingwaterscanada.com. Et là, il y a une section française et beaucoup de documents vont être disponibles en français sur la méthode d'évangélisation selon la voie du maître. Donc, si vous voulez aller plus loin, recherchez les informations et c'est juste de cogiter ça et de le mettre en pratique. Après une conférence comme ceci, on a parfois tendance à aller voir notre pasteur et dire « Pasteur, depuis le début de l'Église, on a tout fait, tout croche et maintenant il faut évangéliser selon la voie du Maître. » Si vous faites ça, ça va être une erreur. Et j'aimerais vous proposer une stratégie un petit peu différente. J'aimerais vous faire réaliser quelque chose. Deux versets. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 12. Paul dit aux Thessaloniciens, « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez beaucoup, pour eux, beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. » Commencez pas une chicane avec votre pasteur. Dites pas dans votre cœur, votre pasteur n'a rien compris, il est bouché et il faut commencer une autre église. Soyez en paix. Hein? Ça, c'est important. Une autre chose, réalisez que ce ne serait pas une bonne chose pour votre pasteur d'accueillir tout ça tout de suite et de dire « Oui, on part avec ça ». Pourquoi? Acte 17, 11. Les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et votre pasteur a une charge sur le troupeau, et son rôle, c'est d'éviter que le troupeau soit transporté à toutes les nouvelles modes. Voyez-vous? Maintenant, nous, on sait que évangéliser sur la voie du maître, ce n'est pas une nouvelle mode. C'est ce que Jésus faisait. C'est ce que les apôtres faisaient. C'est ce que les chrétiens jusqu'aux années 1900 faisaient. Et c'est ce qu'on peut choisir de faire aujourd'hui. Mais sauf que votre pasteur, lui, veille sur le troupeau. Et ce serait plutôt normal que votre pasteur dise, « Un instant, on va s'asseoir, on va examiner ce que ça dit, on va examiner les Écritures et on va voir qu'est-ce que c'est. » Donc, si vous avez à cœur cette méthode-là, commencez comme on disait, commencez par vous-même. Commencez par réfléchir, l'éprouver, la mettre en pratique dans votre propre vie. Vous verrez les fruits que ça donne et on verra autour de vous les fruits que ça donne. Et après, à ce moment-là, vous pouvez commencer à en parler à votre pasteur. Donc, ce soir, on va aller un petit peu plus loin et on va regarder que c'est important que on soit unis dans ça. Que, c'est-à-dire, les forces armées comprennent bien le besoin d'unité. Et dans l'Église, on a aussi besoin d'unité. Une approche comme ça ne devrait pas diviser les amis, diviser les frères, devrait plutôt favoriser l'unité dans l'Église. Et si on voit les fruits à l'action dans notre vie, ça va rallier les gens plutôt que les diviser. Donc, on veut que ce qu'on vient d'apprendre favorise plutôt l'unité dans les Églises, ce qui va nous donner une plus grande force de frappe. Voyez-vous? Donc, le Seigneur Jésus nous a donné un message saisissant pour notre génération. Et c'est quoi? La loi aux orgueilleux et la grâce aux humbles. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec? Est-ce qu'on a une option de ne pas le faire connaître? Moi, ce que j'aimerais ce soir, c'est allumer. Je ne voudrais pas que vous vous sentiez coupable ce soir. Moi, je veux vous faire un défi par rapport à la mission, mais je ne voudrais pas vous faire sentir coupable. J'aimerais plutôt allumer un feu en dessous de votre chaise pour que vous soyez heureux de vous lever pour le Seigneur. Ça vous fasse grand plaisir. Et vous trouvez que ce soit super de vous lever pour le Seigneur. Ce n'est pas une question de « est-ce que je devrais aller en mission? » Parce qu'on est tous appelés à la mission. Vous serez mes témoins. En commençant à Jérusalem, toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. On est tous appelés à la mission. La question, c'est où? Voici des options. On pourrait être appelé à la mission sur notre campus après les vacances. On pourrait être appelé dans notre lieu de travail, notre famille, notre entourage, notre voisinage. Qu'est-ce qu'on penserait de Gibec cet été? Une option. Qu'est-ce qu'on pense de Québec 2008? Durant les festivités, il va se passer beaucoup de choses. S'impliquer dans Québec 2008. Qu'est-ce qu'on pense de la cohorte? Comme un futur ouvrier ou un futur missionnaire? Ou, si vous n'êtes pas appelé à quitter un travail séculier pour vous consacrer à l'œuvre, peut-être que vous êtes appelé à être dans un travail séculier pour rayonner là où vous êtes et soutenir ceux qui se consacrent à l'œuvre. D'une manière ou d'une autre, on est appelé à la mission. Si tu es un membre du corps de Christ ce soir, bien, le corps de Christ est engagé dans la mission que Jésus est en train de faire pendant que son corps terrestre était sur la terre. Faire connaître la bonne nouvelle. Son corps est engagé dans ça aujourd'hui. S'il ne restait pas encore des âmes à sauver, on serait déjà au ciel. Donc, on passe une fois sur la terre et après quoi vient le jugement. Et même les croyants, on aura passé devant le tribunal de Christ, pas pour savoir si on va être sauvé ou perdu, mais pour savoir qu'est-ce qu'on aura comme récompense. On passe une fois, est-ce qu'on peut faire pour que ça compte pour le Seigneur Jésus? Sur mon lit de mort, j'aimerais pas me dire, j'aurais donc dû. Ce ne sera plus le temps. J'aimerais pouvoir dire au Seigneur, merci de ce que tu as fait dans ma vie. Que tu m'as amené à pouvoir investir ma vie pour les choses qui comptent à tes yeux. Donc, je sais que pour plusieurs d'entre vous, je suis en train de prêcher à la chorale parce que vous êtes déjà vendus. Vous êtes déjà des vétérans de Gibec ou vous êtes impliqués dans la GEC. Ou en plus, vous avez toffé toute la fin de semaine. Vous êtes encore ici. Mais même moi, j'ai besoin que mon cœur soit renouvelé dans ça, l'engagement. Donc, ça peut être utile pour vous aussi ce soir. Où est-ce que je peux aller dans la parole pour vous convaincre dans le plus profond de vos cœurs de la nécessité d'être impliqué dans la mission du Seigneur Jésus sur la terre? Moi, je pense à des textes qui ont été des éléments majeurs dans ma propre vie, des textes qu'on connaît, Matthieu 28, 18, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, tout pouvoir m'a été donné. Qui parle? C'est le maître de l'univers qui parle. Un autre texte, Actes 1:8, qu'on a parlé tantôt. Vous serez mes témoins. Un autre passage, Matthieu 16, 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est une vision mondiale. On ne peut pas avoir de repos jusqu'à ce que tout le monde le sache. On pense à Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Quand est-ce que la fin vient? Quand le dernier croyant est entré dans la bergerie. Et c'est Gilles Saunier qui a revendiqué le privilège d'amener le dernier croyant dans la bergerie, l'espèce. Hein? Mais il nous a dit, vous pouvez quand même prier pour ça vous autres aussi, peut-être 10 000 en même temps, c'est correct. Puis comme je vous avais partagé le texte dans 1 Pierre 2:9 qui, moi, m'a parlé beaucoup, dans ce sens que si je me considère comme faisant partie du peuple acquis, de la nation du Seigneur, mais j'ai été sauvé pour annoncer les vertus de celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière, donc ça me concerne moi. Mais ce n'est pas là que je vais vous amener ce soir. Je pourrais aussi vous mentionner que Statistique Canada nous dit que dans un an, 2006-2007, au Canada, il meurt 238 000 personnes. Ça veut dire une personne à toutes les 2 minutes. Une personne aux 2 minutes meurt au Canada. Donc, depuis le début de la conférence, 720 personnes sont entrées dans l'éternité. 720 personnes. Avec ou sans le Seigneur. Au ciel ou en enfer. Je pourrais peut-être vous rappeler aussi, ce qui est évident, mais des fois, on n'y pense pas. C'est quoi le taux de mortalité au Canada? Statistique Canada nous dit 100%. On fait tous partie de la statistique ultime, 100% des gens meurent. Ce qui veut dire que les gens que vous regardez au travail, à l'école, dans votre voisinage, vous les regardez dans les yeux et vous savez qu'un jour, ils vont entrer dans l'éternité, ils vont devoir rendre compte à Dieu de leur vie, ce qu'ils auront fait de leur vie, croyant comme incroyant. Et moi, je pense aux gens que je côtoie à la clinique, dans mon environnement, mes voisins, je me dis, je ne voudrais pas entrer dans l'éternité et que ces gens-là me disent, tu ne m'as rien dit. Je ne voudrais pas ça. Et c'est ce qui ne me donne pas de repos. Il faut qu'on leur en parle. Mais je ne veux pas vous amener là non plus. J'aimerais vous amener avec moi dans un passage qu'on ne pense pas normalement en termes d'évangélisation ou de mission, mais qui pour moi, à travers les années, ça a été un petit peu comme un raz-de-marée dans ma vie. Un raz-de-marée, un tsunami, c'est impressionnant. Mais moi, quand j'ai vu sur YouTube le clip vidéo du raz-de-marée, du tsunami en Indonésie en 2004, en décembre 2004, moi, ce qui m'a impressionné, ce n'était pas la hauteur de la vague, mais c'était la masse de la vague, la masse d'eau qui déferlait et qui continuait de déferler. Et à force de son déferlement qui continuait, a fini par arracher tout sur son passage. Bien, moi, il y a un passage dans la parole qui, à travers les dernières 3-4 ans, a été comme un peu une déferlante qui a continué d'arracher les choses, d'enlever les obstacles à l'évangélisation dans ma vie. Pas que j'évangélise tous les jours, puis que j'évangélise autant que je devrais et que je pourrais. J'ai encore à grandir là-dedans. Mais je vous invite dans Matthieu 6, le Notre Père. Ça a comme balayé mes résistances par rapport à l'évangélisation. Le Notre Père. Parce que vous avez devant vous un peureux. Quelqu'un qui a peur de ce que les gens vont dire. Mais le Seigneur ne me laisse pas tranquille. Et il veut que je me préoccupe de craindre Dieu plus que craindre de déranger, plus que craindre les hommes. Et il m'a fait comprendre que même moi, Si la maison de mon voisin était en feu, il faudrait que j'aille lui dire. Qu'il soit en pyjama, qu'il ne soit pas comme intéressé à entendre ce que j'ai à lui dire, il faudrait que je lui dise, « Sors, ça presse, la maison est en feu. » Donc, le Seigneur Jésus, lui, comment est-ce qu'il a fait ça dans ma vie à travers le sermon sur la montagne? Bien, le sermon sur la montagne, c'est le coup d'envoi de son ministère. C'est le sermon sur lequel tous les bons sermons sont basés. Parce que c'était le début du ministère de Jésus. C'était son plus grand sermon, si on veut. C'était la base sur laquelle tout le reste viendrait. Et Jésus, il dit à ses disciples, « Venez, puis je vais vous montrer comment prier. » À partir du verset 9 au verset 13, Jésus enseigne à ses disciples comment prier. Il dit, « Je vais vous demander quoi demander à Dieu. Qu'est-ce qui est important aux yeux de Dieu? Je vais vous le dire, vous allez savoir quoi demander. » Donc, si le Seigneur Jésus me dit comment prier, c'est intéressant, c'est important. C'est important pour Dieu, donc ça devrait être important pour moi. En explorant notre Père, moi j'ai découvert que c'était une prière que beaucoup d'entre nous, on a jetée à la poubelle. Pourquoi? Parce que, étant catholique, on l'a appris par cœur. Et là, on s'est dit, écoute, le par cœur et les affaires forcées, là, fini. On a tout mis ça à la poubelle. Mais on ne devrait pas mettre ça à la poubelle. Parce que le Seigneur, dans ça, il ne nous donne pas des mots qu'on devrait répéter, mot à mot, mais il nous donne un petit peu un guide, une esquisse, un GPS de la prière par lequel on peut s'orienter quand on prie. Et moi, dans les dernières 3-4 ans, ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi des vérités du Notre Père pour meubler ma prière, pour diriger ma prière. Et j'ai réalisé que le Notre Père, c'est une prière missionnaire. On ne pense pas nécessairement à ça après ma barre, mais c'est incroyablement missionnaire, le Notre Père. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Matthieu, chapitre 6, verset 9, Jésus dit, « Voici donc comment vous devez prier, notre Père. » Ça commence par « Notre Père. » Notre Père. Notre Père, ça veut dire, tu es le Créateur. C'est toi qui nous donne la vie. Tu es notre Père. Et tu donnes la vie à tous ceux qui t'appartiennent, les croyants. Mais en même temps, c'est toi aussi qui as donné la vie à ceux qui ne sont pas encore des croyants. Donc, dans un sens, Dieu est notre Père de façon intime pour tous ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus. Mais il est aussi notre Père de façon plus générale ou plus large parce que c'est lui qui donne la vie, le mouvement et l'être à tous. Et Acte 17, 24 dit, c'est Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Donc, quand je pense « Notre Père », je suis en train de dire « Seigneur, il y a quelque part où tu es le Père, au sens large en tout cas, de tout ce qui existe. Le musulman à mon travail, le Coréen, mon frère qui ne connaît pas le Seigneur. » Donc, « Notre Père », c'est une prière que je peux prier au pluriel. « Notre Père », première personne du pluriel. J'ai tendance, moi, à prier « Je ». Mais Jésus dit, non, prie-nous. Si ce que tu vas demander à Dieu, c'est bon pour toi, pourquoi tu n'en demanderais pas pour ceux qui sont autour de toi? Pense à toi, pense à ceux autour de toi, ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas encore, missionnaires. Notre Père. Notre Père qui es aux cieux. Autrement dit, Seigneur, tu es au-dessus de tout ce qui existe, tu es glorieux, tu es grandiose, tu es suprême, tu es souverain. Il n'y a personne qui peut s'opposer à ta volonté. Tu connais le début de la fin. Tu es aux cieux, au-dessus de tous. Personne ne peut te frustrer dans tes desseins, dans tes idées, dans ce que tu fais. Tu es suprême. Notre Père qui es aux cieux. Ce que ça fait, ça nous ramène à notre première prédication. C'est quoi notre place? Autour de Dieu. Qui est au centre? Notre Père qui est aux cieux. Tout tourne autour de Dieu. Donc, la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, c'est la priorité ultime de l'univers. C'est pas, « Ah, Seigneur, mon petit besoin. » Mon petit besoin est englouti dans les priorités de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est ce qui est le mieux pour moi. Notre Père qui es aux cieux, tu mérites d'être adoré, admiré, craint, révéré, aimé, obéi. Donc, notre Père qui es aux cieux, qu'est-ce qui vient logiquement après? Que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire sanctifier? Mettre à part pour un usage spécial, comme la coutellerie, la belle argenterie qu'on garde seulement pour les invités spéciaux. On la sanctifie, on la met à part. Mais Dieu, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ta réputation soit mise à part. Tu es le seul de ta catégorie, tu es le seul. Il y a tout le reste de l'univers, tout ce qui existe, et il y a toi de l'autre côté. Que ton nom soit sanctifié. Que tu sois reconnu pour qui tu es, que tu sois élevé pour qui tu es, que tu sois mis à part, que ton nom soit béni. Ce serait le contraire de que tu sois traité pour rien, que tu sois méprisé, qu'on fasse peu de cas de toi. Non, qu'on fasse tout un cas de toi. Que ton nom soit sanctifié. Et savez-vous, ça va pour moi, que ton nom soit sanctifié dans ma vie, Seigneur, que je te craigne, que je t'aime et tout ça, mais que ton nom soit sanctifié aussi dans mon couple, dans ma famille, dans mon voisinage, dans mon église, dans ma ville, dans ce monde que tu as créé, que ton nom soit sanctifié, pas juste pour moi, pas juste pour ici, mais pour l'ensemble de l'univers. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que son nom soit sanctifié dans l'univers? Est-ce que quand il va renouveler toute chose, son nom ne va pas être sanctifié dans l'univers? À son retour de 2 Thessaloniciens chapitre 1, est-ce qu'il ne va pas être glorifié par tous ses saints? C'est ça, sa volonté. Que ton nom soit sanctifié, qu'est-ce qui vient après? Que ton règne vienne. Seigneur, aie la première place dans mon cœur, dans ma vie, que ton nom fasse toute ma joie, tout mon plaisir, et aussi que ton règne vienne. C'est-à-dire que Jésus, Dieu a toujours proposé à l'homme de régner sur lui. Donc, Adam, Ève, domine sur la terre en mon nom. Dominez sur la terre en mon nom, faites-le à ma manière. Étendez mon règne. Mais l'homme a rejeté. Avec les prophètes, Dieu proposait son règne. Revenez à l'Éternel. Il n'est pas là de pardonner. Avec son fils Jésus, Dieu a encore proposé son règne. Voulez-vous me prendre pour votre Messie, votre roi? Non, crucifiez-le. Mais savez-vous quoi? Jésus revient. Et quand Jésus va revenir, il ne va pas proposer son règne, il va imposer son règne. Grosse différence. Il vient pour juger et pour exécuter jugement sur la terre, débarrasser la terre de tous les rebelles et instaurer de force son règne. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. On l'a chanté. C'est ce que Jésus vient faire. Et donc, où est notre place là-dedans? Que ton règne vienne, incroyablement missionnaire. Seigneur, viens prendre toute la place dans mon cœur, dans ma vie, dans mes priorités, dans mon utilisation de mon argent, de mon temps, de mes talents. Viens prendre la première, viens régner, Seigneur. Je veux t'ouvrir toutes les portes, toutes les chambres, toutes les armoires de mon cœur, de ma vie. Viens régner, prendre ta place dans toutes les parties de mon cœur, de ma vie, mais aussi viens régner dans ma famille, dans mon église, et dans ma nation, et sur le globe, viens étendre ton règne, que ton règne vienne. Qu'est-ce qui vient après? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et savez, l'univers a été conçu pour fonctionner au quart de tour selon la volonté de Dieu. La trajectoire des planètes, les forces gravitationnelles, les réactions chimiques qui se passent dans le corps humain, les réactions nerveuses, le sang qui circule, les lois de la nature, la loi de Dieu, tout a été fait pour fonctionner selon la volonté et la loi de Dieu. Il y a un grain de sable dans l'engrenage, l'homme, qui a une volonté donnée par Dieu et une capacité de dire non à Dieu. Vous savez que les nuages exécutent la volonté de Dieu? Vous savez que les volcans exécutent la volonté de Dieu? Les vagues exécutent la volonté de Dieu? Les animaux exécutent la volonté de Dieu? Mais l'homme peut dire non. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Comment est-ce que la volonté de Dieu est faite au ciel? Les anges. Immédiatement, complètement, volontairement, joyeusement. Ah, mais Seigneur, que ta volonté soit faite comme ça dans ma vie. Et non seulement dans ma vie, partout sur la terre, comme elle l'est au ciel. Même les démons doivent ultimement faire la volonté de Dieu. Comment est-ce qu'on sait ça? Job. Satan vient se promener devant Dieu, puis il dit, « Hey, Job, ton serviteur, laisse-moi aller y tordre un peu, là, puis tu vas voir qu'il va te maudire dans ta face. » Puis Dieu dit à Satan, « Tu peux aller jusqu'à là, touche à ce qui lui appartient, mais je ne veux pas que tu touches à lui. » On sait ce que Satan fait. Satan revient, « Hey, ben regarde, c'est parce que... Hein, » Puis laisse-moi aller un petit peu plus loin, puis tu vas voir qu'il va te maudire. « OK, c'est correct, tu peux le toucher, mais je ne veux pas que tu prennes sa vie. » Qui est au contrôle? C'est pas Dieu et Satan, c'est pas le bien et le mal, c'est Dieu et Satan. La volonté de Dieu, même par les démons, ultimement, est faite au ciel. Ils ne peuvent rien faire que Dieu ne permet pas. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme ça. Volontairement, joyeusement, entièrement, partout sur la face du globe. Qu'est-ce qui vient après? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est difficile d'imaginer ça. Étant donné que nous, en Nord-Amérique, on a le caviar du mois et du mois prochain. Mais Seigneur, il nous enseigne à demander notre pain quotidien. Qu'est-ce qu'on a besoin pour vivre? Tout d'un coup qu'on serait dans une guerre, puis qu'on aurait à soutenir l'effort de guerre, puis qu'on aurait à se rationner pour la bonne cause, peut-être qu'on penserait plus comme ça. Hey, Jésus me suggère, m'enseigne à demander mon pain quotidien. Je vais en avoir assez avec ça. Paul disait, si nous avons le vêtement et la nourriture, ça va suffire. Hey, change mes valeurs, Seigneur. Garde, si je peux donner un 100$ ou un 200$ ou plus, peut-être que je vais en avoir assez avec mon pain quotidien. Seigneur, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Merci que tu pourvois à tous mes besoins, mais aide-moi justement me débarrasser de ce qui m'embarrasse, alléger, enlever, pour que je sois libre, que je sois léger, que je sois mobile, que je sois flexible, que je sois prêt, n'importe quel temps. Donne-moi mon pain quotidien, juste ce que j'ai besoin. Change mes valeurs. Change ça après quoi je cours. Est-ce que ce n'est pas missionnaire, ça? Se préparer, prioriser pour l'effort de guerre. On est en guerre. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on a fait pour offenser nos frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on a fait pour t'offenser, toi? Ouvre nos yeux pour qu'on voit ces choses-là. Comment est-ce que je peux être efficace dans l'effort de guerre si je suis en chicane avec celui qui est à côté de moi dans mes tranchées? Si on est en train de se battre l'un à l'autre, est-ce que l'ennemi n'est pas en train de rire l'autre bord? On n'a pas besoin de se battre avec eux autres, ils se battent entre eux! Comment est-ce que je peux survivre sur le champ de bataille si je suis la communication et la relation est brouillée avec mon chef? Les ravitaillements coupés. Les communications avec mon chef coupées. Je ne peux pas survivre. En plus, l'ennemi m'accuse. Puis, il essaie de me faire comprendre que je ne devrais pas retourner à mon chef. À toutes les fois que je pêche, il essaie de venir s'insérer entre moi puis lui, puis m'empêcher de revenir à lui. Mais isolé comme ça, est-ce que je ne suis pas une proie facile sur le champ missionnaire, sur le champ de guerre? J'ai tellement besoin d'être pardonné. J'ai tellement besoin de pardonner si je veux pouvoir que ma vie serve pour le Seigneur Jésus. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On ne peut pas s'attendre à être pardonné si on n'est pas prêt à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Donc, la dynamique entre les troupes, tellement importante pour l'évangélisation, pour la mission. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ça, c'est le cri du cœur de l'enfant de Dieu qui dit, « Je ne veux pas pécher, Seigneur. Tiens-moi loin des tentations. Permets pas que je m'approche de quoi que ce soit qui va m'amener à vouloir frayer avec l'ennemi, à vouloir me faire ami avec ceux qui sont contre toi. Seigneur, tiens-moi loin du mal. Me soumets pas à la tentation, délivre-moi du mal. Aide-moi à reconnaître ce qui m'attire, ce qui m'attise, et aide-moi à m'en tenir loin pour éviter de trébucher, éviter de tomber. Je veux pas tomber puis en faire tomber d'autres avec moi. » La prière commence par notre Père et elle termine comment? Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. On a fait le tour, hein? Et on est revenu à la même place. Notre Père, ta gloire. Est-ce qu'on n'est pas à bonne place? Dieu au centre. La priorité de Dieu dans l'univers, c'est ma priorité. Et si moi je prie cette prière-là, le désir de Jésus, le désir de Dieu, régulièrement, ça peut être jour après jour, plusieurs fois dans la journée, de me guider dans mes désirs, dans ma vision, avec cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples, est-ce que la raison de mon existence ne sera pas en plein dans le mille de ce que Dieu a prévu pour ses créatures? C'est ce que je voudrais. Je voudrais essayer d'éviter de tomber à côté de ce que Dieu voulait pour moi. Et ça, c'est un petit peu un témoignage personnel, parce que maintenant, après avoir prié cette prière-là régulièrement dans les dernières années, les valeurs qui sont dans la prière que Jésus a enseignées, moi, ils font partie de la fibre de mon être. Ça ne me laisse plus. Je vois ça dans ma soupe. Je ne peux plus être tranquille. Quand je n'évangélise pas, je sèche. Parce que c'est la priorité du Seigneur. La sanctification du croyant et l'évangélisation de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur encore. Et au fond, ça simplifie les choses. Et moi, j'aime ça quand c'est simple. Il n'y a pas beaucoup de place pour ajouter des nouvelles affaires. Ça fait que quand tu peux mettre ça simple pour moi, j'aime ça. C'est quoi? C'est connaître Christ, le faire connaître, l'aimer, que d'autres puissent l'aimer aussi. Mark Cahill lui disait que c'est facile. Envers les croyants, on a à les encourager à... C'est-à-dire, envers les non-croyants, on a simplement à les encourager à venir au Seigneur. Puis envers les croyants, on a simplement à les encourager à ce qui encourage d'autres à venir au Seigneur. Le non-croyant lui dit « Connais le Seigneur Jésus ». Le croyant lui dit « Aide-moi à faire connaître le Seigneur Jésus ». Donc, ça simplifie les choses beaucoup. Réalisons que faire connaître le Seigneur Jésus, c'est la seule chose qu'on ne pourra pas faire au ciel, à part pécher. Mais faire connaître le Seigneur Jésus, c'est pour maintenant, parce qu'au ciel, il n'y en aura pas d'inconvertis. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre de plus intéressant, de plus palpitant, de plus motivant, au fond, que ça? Moi, je peux vous dire, dans toute ma vie, c'est ce qui me donne les frissons, la chair de poule. Être chiropraticien, c'est une belle profession. Moi, j'ai l'occasion de voir des gens qui rentrent dans le bureau puis qui sont tout croches, puis qui éventuellement en sortent, ça va mieux. Mais savez-vous quoi? Les gens qui sortent de mon bureau allant mieux font quand même partie de la statistique ultime et vont tous se retrouver dans la tombe. C'est moins encourageant. Un neurochirurgien qui, lui, avec sa dextérité, ses grandes connaissances, sauve des vies par des opérations. Ses patients vont tous mourir, lui aussi. Mais je pense à demain midi où on doit rencontrer Martine, on doit rencontrer sa fille, Kathleen, on doit rencontrer une amie, Cheryl, qui ne connaît pas le Seigneur. Et je pense à ces personnes-là, et je sais que Dieu est en train de les attirer à lui. Et c'est comme, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus excitant, de voir quelqu'un passer des ténèbres et Dieu l'attirer à la lumière. Et de penser aux conséquences éternelles de tout ça. Juste pour vous rappeler que celui qui m'a annoncé l'Évangile la première fois, c'est à cette île, s'appelait Jean Chénier. Et comme je vous ai expliqué, je lui ai donné beaucoup de misère. Et je ne l'ai jamais revu depuis. Donc lui, à ce qu'il peut savoir, je vais être celui qui va être le plus profond au plus profond de l'enfer. Parce qu'il n'y a aucune espèce d'indication que je peux être sauvé. Mais pourtant, me voici. Savez-vous quoi? J'espère qu'il est encore dans la foi. Puis j'espère qu'il va être au ciel. Parce que s'il est au ciel, là, je vais le chercher, puis je vais le trouver. Puis je vais lui dire, « Hey Jean, salut! » Il va faire le saut, les deux bras vont y tomber, ses bras glorifiés. Une fois qu'il les aura ramassés, puis replogués, là, je vais lui dire, « Jean, je peux-tu te conter quelque chose? J'aimerais te parler de mes années à Toronto. Comment est-ce que, après que tu m'aies parlé du Seigneur, je rappelle ce qui t'est arrivé, hein? Je n'avais rien voulu savoir. Mais tu sais, à Toronto, le Seigneur avait un rendez-vous avec moi, puis c'est là que j'ai connu l'Évangile. J'aimerais lui parler de mes années à cette île, avec Michel Habib. Puis qu'est-ce que Dieu a fait dans l'église de cette île? Comment il m'a formé? J'aimerais lui parler de mes années à Los Angeles, au Master Seminary. Comment Dieu m'a mis beaucoup d'éléments pour moi à Los Angeles. Et de mes années comme pasteur à l'église de Port-Cartier. Et je m'imagine de voir son regard, puis de dire... « Wow, Jacques, j'aurais jamais cru. » Je sais que tu n'aurais jamais cru, je te comprends. Et je pourrais lui parler de vous autres. Comment est-ce qu'on a pu se rencontrer puis parler de l'Évangile? Puis si je vous vois au ciel, je vous demanderai de venir avec moi puis on va aller voir Jean ensemble. Puis vous allez lui raconter tout ce qui s'est passé dans votre vie en découlant de cette conférence-ci. Puis là, Jean, il va regarder, il va dire « Wow, j'en reviens pas. » Puis moi qui pensais que c'était rien passé. Mais savez-vous qu'il y a des gens à qui vous avez annoncé l'Évangile, laissé un traité, vous n'avez aucune idée de ce qui s'est passé, puis que vous allez voir dans l'éternité, puis qu'ils vont peut-être vous accoster comme ça. Quelle gloire, hein? Et ça vaut la peine qu'on investisse notre vie pour ça. Parce qu'on ne sait pas, hein? C'est des dividendes qui se multiplient, intérêt composé sur intérêt composé. Qu'est-ce que c'est un réseau, hein? Boy, ça peut devenir puissant, ça. Puis quand tu composes ça éternellement, wow! Tu sais, le Seigneur Jésus, là, il nous dit qu'il va nous préparer une place, une maison, dans le ciel, sur la nouvelle terre, nouvelle Jérusalem, des nouveaux cieux, une nouvelle terre, une maison. Qu'est-ce qui vous dit qu'on ne pourra pas s'inviter les uns les autres, puis se jaser ensemble, de partager qu'est-ce que le Seigneur Jésus aura fait dans nos vies? Hey, tu savais-tu qu'est-ce qui s'est passé après la conférence? Puis qu'on va bénir Dieu éternellement de ce qu'il aura fait à travers nos petits pains, nos petits poissons, nos petits efforts. Ça ne vaut pas la peine d'investir pour ça. Moi, je trouve que ça vaut la peine. Qu'est-ce que je peux faire qui va compter? Moi, je vous avais proposé de demander à Dieu de faire quelque chose de grand pour vous en fin de semaine. Mon but, ma prière, c'est que vous puissiez sortir d'ici et que vous puissiez vous demander et demander à Dieu, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ta mission? Montre-moi-le, puis amène-moi là. » Pas que ça reste des vœux pieux, des paroles. Mais si vous demandez au Seigneur, « Montre-moi qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ta mission? Montre-moi-le, puis amène-moi là. » Je pense que je sais qu'est-ce qu'il va vous répondre. Je pense qu'il va vous dire, « Commence à Jérusalem. Commence là où tu es. Commence maintenant. Prends les outils qui t'ont été donnés, Commence à les utiliser. Colle-toi après ceux qui travaillent déjà. Apprends, toi aussi. Quand tu sauras, tu en formeras un autre. Commence maintenant. Joins-toi à ceux qui sont en train de le faire. Mais là, peut-être que tu vas dire, « Mais Jean, c'est facile pour toi, tu es pasteur. Puis regarde, tu parles devant tout le monde, puis tu as la parole facile, puis tout ça. » Mais comme je vous ai dit, hein, moi, je n'ai pas la parole facile. Ça me fait penser à un homme, Mark Hall. Vous savez, la musique qu'on entendait avec les diapos, là, c'est Casting Crowns. Peut-être quelques-uns d'entre vous connaissez le groupe Casting Crowns. OK. Celui qui chante, Mark Hall, a une histoire assez particulière. Cet homme-là, c'était un homme qui se serait jamais vu là où il est maintenant aujourd'hui. Il est pasteur de jeunesse dans son église et il est aussi avec le groupe Casting Crowns et ils font de la formation de disciples parmi les jeunes à la grandeur des États-Unis et peut-être, je ne sais pas, ailleurs dans le monde. Mais Mark a commencé assez difficilement. Comment ça a commencé? C'est que quand il était jeune, Mark était dyslexique. Et en plus, il était hyperactif. Alors, si vous pouvez combiner les deux ensemble, dyslexique et hyperactif, vous pouvez imaginer que ce n'était pas facile ni pour lui, ni pour ses parents, ni pour ses professeurs. Et lui, avec le temps, il était venu convaincu qu'il ne pourrait vraiment rien faire de tout ça, lire et apprendre et tout ça. Mais le Seigneur lui avait mis à cœur de le servir. Et à un moment donné, Marc a grandi et ça n'allait pas très, très bien à l'école, son affaire, là. C'était vraiment difficile. Mais il avait à cœur la musique. Et dans sa petite église, il jouait au piano 4 accords. Et ces 4 accords, là, c'était quelque chose pour lui. Puis c'était son investissement, puis c'était sa musique, puis ces 4 accords. Mais il était un gros poisson dans un petit bocal. Okay? Mais le Seigneur lui met à cœur de le servir. Et à un moment donné, il fait un changement radical dans sa vie. Il se marie. Il déménage d'État, il s'inscrit dans un collège biblique et dit « Seigneur, au max pour toi ». Et là, la réalité l'a rattrapé. Il dit, on était beaucoup d'étudiants qui se sont arrivés là en première année, il fallait être évalué. Évaluation, pour les lui, il allait étudier pour être pasteur de musique dans son église. Autrement dit, ce que tu as fait pour nous, Mathieu. Leader de l'adoration. Et donc, l'évaluation, c'était, il y avait à prendre à répondre des questions sur la musique, sur l'adoration et tout ça. Un gros examen de 8 pages, peut-être. Et là, quand il a vu examen, lui, tout de suite, son cerveau fait je ne peux pas faire un examen. Surtout pas sous pression. Ça fait que là, on passe les examens, vous pouvez commencer, tout le monde ça remplit les feuilles, il peine à la planche. Et là, lui, il est là. Il lit la première question, il ne comprend rien. Il lit la deuxième question, il ne comprend rien. Et là, il commence à penser à sa tête, comment est-ce que je peux faire pour sortir d'ici sans que personne me voie? Au bout de 8 minutes, il abandonne, il dit, il n'y a pas moyen. Il signe son nom sur la feuille, il va mettre ça sur la table, il sort. Et là, il venait de remettre sa démission à Dieu, du collège biblique, et il dit, « Seigneur, comment ça se fait que tu m'as amené jusqu'ici pour te servir et que là, j'ai même pas fait ma première journée et je me retourne chez nous. Comment je vais annoncer ça à ma femme qui m'a suivi jusqu'ici? » Il dit, « Providentiellement, le chemin qui menait chez nous passait tout droit par la chapelle au collège biblique. Et là, quand il est arrivé à la chapelle, au lieu de faire le tour, il est simplement entré dans la chapelle. Il est allé s'asseoir en arrière. La chapelle était vide. Et là, avec Dieu, il ruminait la chose. Pendant qu'il ruminait la chose, ça a été le temps pour la chapelle, la réunion de chapelle. Donc, les étudiants ont commencé à rentrer. Se sont assis. Et là, il a vu les vrais. Il a vu les gens qui chantaient. Il a vu les premiers en musique, même les premières années, Keith jouait ça sur le piano, mon ami. Il n'avait jamais vu des gens jouer sur un piano comme ça. Puis c'était glorieux. Et là, il disait à Dieu, « Garde, Seigneur. Eux autres sont capables. C'est eux autres que tu vas prendre, hein? Puis moi. Rien pour moi. » Et là, la réunion a terminé. Et tout le monde est sorti. Et Mark, il dit, là, c'est là que j'ai eu ma bagarre avec Dieu. Il dit, là, j'ai commencé à lutter avec Dieu. Puis à déverser mon fiel. Pourquoi tu m'as appelé à venir ici? Puis qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu fais tout ça? Éventuellement, il a arrêté. Il s'est assis au piano. Puis là, il a joué les quatre accords qu'il connaissait. Puis tout d'un coup, ces quatre accords lui semblaient bien banals. Il n'y avait rien là, ces quatre accords, après ce qu'il venait d'entendre. Puis il dit au Seigneur, « Écoute, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais jamais faire pour toi? » Et là, le Seigneur a parlé à Marc. Le Seigneur a dit, « Mark, j'ai pas besoin de toi. Mais je te veux. Est-ce que tu penses que ton manque de capacité au niveau de la lecture, est-ce que tu penses que ta difficulté à être attentif, est-ce que tu penses que tes faiblesses, est-ce que tu penses que ça m'empêche de travailler? Moi qui t'ai créé, moi qui tiens le monde dans ma main. » Mark, tu sais, j'ai pas besoin de toi, mais je te veux. Je suis en train de faire quelque chose de grand dans l'univers, de glorieux. Puis la seule chose que je veux savoir de toi, c'est est-ce que tu veux venir avec moi? Et c'est là que le Seigneur a touché le cœur de Mark, que Mark a dit, « OK, Seigneur. » Et il dit, à partir de ce moment-là, ben, je suis retourné le lendemain. Et je suis retourné le surlendemain. Et je suis retourné le surlendemain. Et il dit, au bout de 6 ans, j'ai gradué du collège biblique, un programme de 3 ans. Mais il a gradué du collège biblique. Et aujourd'hui, le Seigneur lui a donné un ministère de s'investir auprès des jeunes, de les inspirer au niveau musical, et il se sert de lui. De la même manière pour nous. Est-ce que Dieu a besoin de moi? Est-ce qu'il a besoin de toi? Dieu, le centre de l'univers. Savez-vous, il pourrait faire son travail beaucoup plus facilement s'il ne s'embarrassait pas de nous. Hein? Il n'y a pas besoin de moi puis de toi, mais il nous veut. Il est en train de faire quelque chose de grand et de glorieux au Québec, dans plusieurs villes. Et tout ce qu'il veut savoir, c'est « Est-ce que tu veux venir avec moi? » Ça ressemble étrangement à Jésus qui regardait les gars sur le bord du lac et disait « Suivez-moi, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Est-ce que tu veux venir avec moi? Veux-tu venir? Est-ce que tu as 2 minutes? 2 minutes. On avait demandé au Seigneur de faire quelque chose de grand dans nos vies. Matthieu nous a même amené à prier que Dieu nous brise. Un jour, moi, j'ai demandé au Seigneur quelque chose. J'ai dit, Seigneur, ça c'était dans mon zèle de jeune chrétien. Seigneur, ma vie c'est comme un arc. Je veux te le donner. Prends l'arc, tire. Tire, tire, casse l'arc si tu veux. Oh, j'ai demandé ça à Dieu. Mais le Seigneur a exaucé en partie cette prière-là. Il a commencé à briser des choses dans ma vie. Il a fait des choses. Il n'a pas fini encore, je ne pense pas. Je sens qu'il y a encore du travail à faire. Mais il a commencé ça. Je pense que c'est une prière que le Seigneur aime répondre. Est-ce qu'on serait prêt à demander au Seigneur de faire ce qu'il faut dans notre vie pour nous engager dans la mission. Ce qu'il faut. Moi, j'aimerais vous inviter à vous lever et on va terminer avec ça. 2 minutes entre nous et Dieu, ça n'a rien à faire avec moi. Moi, je suis un spectateur de ce que Dieu fait ici. Simplement prendre un peu de temps et parler avec Dieu concernant est-ce que je suis prêt à demander au Seigneur qu'il fasse ce qu'il faut dans ma vie pour m'amener là où il me veut dans la mission. 2 minutes entre toi et Dieu. Je terminerai. Seigneur Jésus, nous te devons la vie. Tu as accepté, à cause de ton amour pour ton Père, de porter sur ton corps le châtiment que nous méritions. Nous te devons la vie. Qu'est-ce qu'on pourrait te refuser? On aimerait te prier, Seigneur, que tu fasses tout ce que tu veux faire dans nos vies. Tu pouvais demander à Ézéchiel de se tenir couché pendant 300 jours. Tu pouvais demander à Jérémie de prêcher à un peuple qui ne voudrait pas entendre. Fais ce que tu veux dans nos vies, Seigneur. Donne-nous d'accueillir ta volonté pour nos vies. Si c'est de la souffrance, donne-nous la force pour la porter. Fais ce que tu veux, Seigneur. Nous voulons voir Jésus élevé. Merci. Glorifie ton nom dans nos vies. En ton nom précieux qu'on te demande. Amen. Amen. J'aimerais vous inviter à vous asseoir. Et j'aurais juste une question à vous poser. Et ça, je vous pose ça avec beaucoup d'amour. Qu'est-ce qui fait que tantôt, un homme pécheur vous a invité à vous lever et vous vous êtes tous levés ensemble? Jésus nous invite à se lever. L'engagement est plus grand, mais c'est Jésus qui nous invite à se lever.